Là, je précise qu'il y a un collègue du Congo qui n'a pas pu faire le déplacement. Donc, c'est la dernière communication. Je rappelle que cette table ronde est axée autour de, enfin, sur le plurilinguisme et éducation durable. Il a été essentiellement question de plurilinguisme vu dans un sens, dans un angle plutôt éducationnel. Hein, et nous avons soulevé les questions liées aux politiques linguistiques éducatives. Je précise également que l'intervention de notre collègue de l'Université de Paris-Sorbonne, Monsieur David-Henri Flores Salgado, c'est bien ça, nous a vraiment permis de voir en quoi la langue française, d'un point de vue langue française, le français langue étrangère, elle est importante hein, dans les pays comme la Colombie, c'est bien ça. Et sur ce, je vais vous laisser la parole. Vous pouvez intervenir, poser une question, compléter peut-être une intervention, faire des remarques. Je pense qu'on a droit à 10 minutes quand même, hein, parce que on peut. Là, il y a le Congolais qui n'est pas là, donc on prend les 10 minutes de notre collègue du Congo pour les débats. Vous avez la parole, messieurs, dames.
T'as bien compris, je crois.
Oui, j'ai compris. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne notre université, alors nous avons une filière bilingue et on dispense des cours en anglais, en français ou en allemand. Donc, dans le cadre de la faculté des affaires en langue étrangère. Alors, il y a également une filière polytechnique, où on fait en fait enseignement scientifique en anglais ou en français. Il y a également domaine de construction, médecine, ainsi de suite. Le problème est en fait le suivant, que le niveau en fait des étudiants, le niveau de langue, voilà, des étudiants qui suivent voilà ces filières. Entièrement en anglais, en français ou en allemand, il est très bas. En fait, nous, en tant que professeurs de langue étrangère ou professeurs, disons, de langue de spécialité, nous intervenons très peu. C'est-à-dire, il y a une année de langue ou deux, ça signifie 2 heures par semaine, donc faire notre métier de prof de langue et donc travailler différentes compétences. Deuxième problème, c'est que malheureusement, il n'y a pas de communication. On a mentionné ici l'importance de travailler en équipe avec les enseignants de discipline. Ah, donc, il n'y a pas une communication, un travail voilà, en équipe pour que, par exemple, on peut suivre les épreuves écrites des étudiants, voire quels sont les problèmes de langue ou les problèmes de communication en communication orale et corriger tout cela. Donc, si vous voulez, ce qui est de cet enseignement en filière, voilà, il y a bien sûr des points positifs, mais malheureusement, il faut encore travailler, repenser la relation entre les enseignants de langue et les spécialistes des disciplines. Si vous voulez, je voudrais ajouter encore une remarque. Je commençais ma présentation en précisant que les étudiants roumains ont un faible capital, disons, plurilingue par rapport, disons, aux étudiants qui viennent dans l'année préparatoire de l'espace arabophone, francophone, tel Afrique du Nord, mais également Asie, alors qui ont cette habitude, en fait, de, donc il y a leur langue, il y a l'anglais, il y a le français, et donc ils viennent en Roumanie pour apprendre le roumain, pour qu'ils continuent leurs études en roumain, soit en médecine, soit filière économique, architecture, ainsi de suite. Donc j'ai vu un décalage de capital pluriculturel énorme, et j'ai dit en permanence à mes étudiants roumains, alors vous voyez, donc il y a une concurrence, parce que ce sont eux qui ont en fait plus de chances de décrocher des emplois. D'ailleurs, les diplômés de la faculté de médecine qui ils pratiquent la médecine en Roumanie, il y a également des architectes, il y a également des économistes, donc dans le domaine de la consultance, management, marketing. Pourquoi ? Parce que eux, ils peuvent dire comme ça. Moi, ils disposent de leur langue maternelle, à laquelle s'ajoute l'anglais, le français et le roumain. Et donc, pour tous les employeurs, ça, c'est une carte de visite formidable. Voilà.
C'est très bien. Autre intervention. Sinon, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui explique justement ce faible volume horaire alloué aux Français, en fait.
Alors là, j'ai dit à un moment donné, au-delà des politiques au niveau de l'Europe, au niveau de notre pays, en fait, le nombre, donc les ressources temporelles sont allouées par, en fait, l'organisme qui certifie le fonctionnement de ce programme, parce qu'il devrait être accrédité. Et alors, on ne prévoit que 2 heures, parce qu'il y a en fait d'autres pourcentages qui sont plus importants pour d'autres disciplines. Vous voyez ?
Oui.
Donc, il faut repenser tout cela, ça c'est clair. Ou bien, donc, les décideurs politiques qui devraient accepter la réalité de la classe. On ne peut pas avoir performance dans ces conditions. Oui. C'est seulement, en fait, disons, la motivation du prof qui s'implique. Moi, par exemple, à la fin de chaque semestre, j'ai plus de 300 forums que voilà, je gère et je donne à mes étudiants, même des réponses personnelles, mais ça me prend beaucoup de temps. Donc, pourtant, on ne peut pas assurer la qualité seulement se baser sur, disons, la conscience et la motivation des enseignants.
Ok, parfait. Oui, monsieur Tremblay.
Il est assez étonnant que, les élèves, les étudiants roumains, à un niveau aussi faible que ce que vous dites en français, dans la mesure où, à ma connaissance, pour ce qui est du bac général et du bac technologique, normalement, il y a deux langues obligatoires. Hein. Donc, ils ont peut-être eu majoritairement l'anglais en première langue, mais pour une très grande partie, ils ont eu le français en deuxième langue, toute la scolarité.
En fait, ils ont deux langues tout au long de leur scolarité, donc à partir de la deuxième classe primaire, oui, jusqu'à la fin du lycée. Mais lorsqu'ils arrivent ici en première année, on constate que, d'une part, même leur anglais n'est pas formidable. Et pour ce qui est du français, c'est même plus mauvais. Et donc, il y a également les contraintes, disons, administratives du fait qu'on travaille dans de grands groupes. Alors, le nombre faible d'heures par semaine, et tout cela s'enchaîne. Et il y a, en fait, leur impression que l'anglais, ça suffit pour se débrouiller. Mais depuis quelque temps, disons, on a constaté que le marché du travail valorise énormément une deuxième langue. Et le français commence à récupérer du terrain. Et donc, en troisième année, ils viennent chez nous nous dire, bon, comment faire pour augmenter nos compétences en français dans deux semaines, trois semaines, parce que sur le marché du travail, des multinationales, voilà, américaine, en fait, donc, de tous les continents exige une deuxième langue. Donc, l'anglais, ça, c'est déjà obligatoire, n'est-ce pas? Mais c'est la deuxième et la troisième langue qui assurent le capital, en fait, de compétitivité de nos diplômés.
Oui, madame.
S'il m'est permis d'intervenir un tout petit peu à propos de la situation en ce qui concerne l'apprentissage des langues modernes en Roumanie. Nos élèves apprennent deux langues à partir de la cinquième, notre cinquième roumaine. Et pour ce qui est du bac, pour le moment, c'est une seule langue étrangère obligatoire, mais dans peu d'années, disons, je ne sais pas, deux ou trois années, ils seront obligés d'avoir obligatoirement deux langues étrangères. Au fait, la loi de l'éducation nationale prévoit cet aspect, mais on a établi une certaine année pour une certaine génération qui va commencer à avoir cette obligation de deux langues étrangères comme langue obligatoire. D'autre part, ce qui est peut-être de nouveau, disons, à partir de 2010, on n'a plus de notes comme système d'évaluation, mais des niveaux de compétences linguistiques. Et voilà pourquoi j'ai mentionné le cadre européen de référence, puisqu'à partir de ce document, on a commencé à évaluer le niveau de nos élèves et sur leur diplôme. Diplôme de bac, on inscrit A1, A2, B1, B2, enfin, ce qui résulte après cette évaluation. Merci.
Alors, je voudrais cependant, enfin, je voudrais aussi poser une question à notre collègue de Paris, Sorbonne. Vous parliez d'une sorte d'échec, n'est-ce pas, de l'enseignement du français, langue étrangère, en Colombie. En fait, qu'est-ce qui explique cela, en fait?
Et disons que l'échec, c'est pas vraiment dans l'enseignement, mais dans la politique, parce que à cause du changement du gouvernement, donc tout ce projet s'est arrêté avec les changements des gens à l'ambassade, avec les changements de tous les travailleurs au gouvernement local. Donc disons que c'est arrêté, personne ne savait ce qui s'est passé, et les professeurs, ils ont resté dans l'air sans rien faire, et donc personne ne savait quels seraient les pas à suivre après. Voilà. Donc, l'échec, c'est de laisser les projets comme ça sans tête.
Oui, ça recoupe un peu la situation en Afrique, où justement lorsque les gouvernements changent, les politiques linguistiques soit sont abandonnées ou enfin, ça change aussi justement. Et donc là, justement, moi je pense que enfin, là j'interpelle un peu l'Observatoire européen, s'il faut agir comme c'est bien défini ici sur les politiques, comment pouvoir agir sur ces politiques du moment où quand on prend le cas de l'Afrique entre 1975 et 1990, il y avait une politique de valorisation des langues nationales, des langues locales. Et avec le vent de la démocratie, il y a eu beaucoup de chamboulements au niveau des décideurs politiques, beaucoup de changements de gouvernement. Et tout de suite, on a assisté à un abandon de cette politique de valorisation des langues africaines. Et on est retourné à une politique d'enseignement du français ou de l'anglais ou des langues européennes, une politique exclusive d'enseignement de ces langues. Voilà. Donc c'est une situation qui se présente dans une certaine mesure également en Afrique.
Disons que c'est une problématique, devant laquelle, je ne dirais pas qu'on soit impuissant, mais enfin, le facteur politique et l'instabilité politique est effectivement un facteur de limitation. L'éducation, c'est un domaine dans lequel il faut de la continuité. On ne peut pas changer de politique tous les 2 ou 3 ans, ou 4 ou 5 ans, c'est absolument impossible. Une politique éducative, c'est 20 ans, 30 ans de travail. Bon, et quand on a des gouvernements, même en France, il n'y a pas une très grande continuité. Il y a plein de chantiers qui avaient été ouverts, par exemple, par Jacques Lang en matière de langue, qui se sont trouvés contrecarrés par d'autres majorités. Donc, je plaide pas pour une majorité plutôt que pour une autre, mais c'est ce qui caractérise ce domaine, c'est l'absence de continuité. Et pourquoi il y a une absence de continuité? C'est parce que la question linguistique est une question qui est, même les questions éducatives d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est un domaine dans lequel les politiques sont généralement relativement incompétents. Ça, c'est pas difficile à calculer, il suffit de faire une étude du discours en matière éducative, on sait que les politiques sont généralement totalement ignares dans le domaine. Et dans le domaine linguistique, c'est encore pire. Et donc, on est tout le temps dans la situation marginale. Et notre problème, nous, quotidiennement, on le fait, parce qu'est-ce qu'on cherche à faire souvent? Bon, atteindre la grande masse, on ne travaille pas sur les masses dans ces domaines-là. On cherche des experts. Donc, les experts vont changer de poste. Donc, à chaque fois, il faut reprendre le travail et toucher le bon expert qui se trouve à la bonne place et qui puisse avoir un impact directement sur telle ou telle personnalité. Il y a des moments où on arrive à faire des choses. On a parfois eu des victoires absolument formidables. Bon, je vais pas le faire pour pas prolonger trop longtemps, mais on a eu à un moment donné, dans le cadre d'une nouvelle loi sur l'enseignement supérieur en 2013, on a eu un impact absolument fantastique parce qu'on a trouvé au niveau du Parlement un député qui a pris l'affaire en main. Il a mobilisé plein d'élus d'un bout à l'autre de l'hémicycle, donc totalement transparti. Bon, oui, malheureusement, voilà, ce député-là, il n'est plus là, et donc il faut en retrouver un autre qui ait ce niveau d'efficacité et qui sache faire le siège d'un ministre. Il faut être un ministre, il faut le voir tous les 3 jours, ne pas le lâcher jusqu'à ce qu'il cède, bon, qu'il cède au Parlement. Et voilà. Donc on a une fois comme ça, nous, il y a un amendement, il est passé, et c'est la ministre elle-même qui a dit « Ok, d'accord, on y va ». Bon, donc elle a accepté le truc. Voilà. Mais après, l'instabilité politique, c'est pas seulement de gagner dans la décision, mais après c'est l'application de la décision. Justement. Parce qu'il y a plein de décisions qui sont prises officielles et qui n'ont aucune suite. C'est ça. Donc c'est... Voilà, enfin, je... Voilà, donc, mais nous, on dirait, on continue.
On reste dans la recherche.
Et donc, on va trouver, on peut avoir un ministre, j'ai cité Jacques Lang, pas parce qu'il était socialiste, mais simplement parce que dans le domaine linguistique, il savait de quoi il parlait, et dans le domaine éducatif aussi. Mais il y en a un autre, comme François Bayrou, qui connaissait très très bien les questions d'éducation. Voilà.
Voilà. Okay. C'est votre intervention, monsieur.
En fait, on est militant, quoi. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à répéter les mêmes choses. Donc, ici, on est entre gens convaincus, donc il n'y a pas de problème. On croit qu'il peut y avoir des différences. Mais dans le problème, c'est que les politiques, comme tu le disais, sont incompétents. En plus, ils s'en foutent. Et le public lui-même, le public électoral lui-même, n'est pas. Si vous voulez, les langues, c'est un truc où tout le monde pense qu'il n'y a pas de problème, où tout le monde pense que bah, ça va de soi, quoi. Bah, on va apprendre l'anglais, et puis, bon, voilà, je fais du plurilinguisme, je fais un peu d'anglais, c'est du plurilinguisme, etc. Alors donc, nous, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça, et ce qui est désespérant, c'est les politiques, mais aussi les universitaires, hein, parce que ce sont les universités et les entreprises aussi, hein. Ce sont les universités et les entreprises qui, elles, prennent de mauvaises décisions, bien souvent, la plupart du temps, dans la politique linguistique. Et donc, on en est à espérer qu'un jour, il y ait, on est prêt, d'ailleurs, on est plus ou moins prêt, hein, espérer que quelques jours, un jour, quelque chose va arriver et ce qui va intéresser les journalistes et qu'à un moment donné, il y aura un débat. Et dans ce cas, ça, c'est arrivé en partie en 2013 avec la loi Fioraso, où finalement, on était constamment interviewé par la presse à propos de cette loi. Et cette loi a changé en partie grâce à nous et à le député, comment il s'appelle, en plus d'origine, Amir Shahi, oui, d'origine iranienne, extrêmement militant pour le français. Et donc lui, on est prêt. Si jamais ça rentre dans le domaine public, c'est-à-dire les journalistes s'intéressent. Bon, on peut à ce moment-là essayer d'influencer l'opinion et les politiques.
L'événement qui peut modifier les choses, et je dirais, je suis assez réconforté, je suis très heureux de ce qu'a dit Antoinetta, mais ce qui a été dit ce matin, c'est quand même des éléments qui touchent le marché du travail. Quand on commence à toucher aux revenus, et quand les multinationales commence à se rendre compte que la compétence linguistique est un facteur de compétitivité, je pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental auquel le monde journalistique, par exemple, et ensuite le monde politique, peut se trouver assez attentif. Hein? Donc voilà, moi, s'il y a un élément qui est en train de changer, c'est probablement celui-là.
Très bien. Peut-être une dernière intervention, monsieur.
On ne peut être que d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Du temps où j'étais à l'association des professeurs de langue vivante, on disait, chaque fois qu'on change de ministre, il faut recommencer à zéro, parce que le nouveau ministre ne connaît rien. Mais je pense qu'il y a une autre difficulté monumentale, c'est le corps enseignant. Parce que si on veut changer la pédagogie, la didactique, la pratique dans la classe, il faudra reformer le corps enseignant. Et là, le corps enseignant est extrêmement frileux quant à réapprendre son métier parce qu'il considère qu'il le sait. Et il y a un conservatisme pédagogique au niveau des enseignants qui est extrêmement glaçant quand on le regarde en face. Et ensuite, si les nouveaux enseignants, il faut 5 ans pour former un enseignant au niveau universitaire, quelque chose comme ça, et pour qu'il devienne efficace, il faudra 5 ans de pratique de plus. Il faut 10 ans pour qu'un enseignant apprenne son métier et devienne efficace. Mmh. Et les anciens, il faut les reformer entièrement. Vous voyez le problème. Ça coûte cher, c'est bien sûr, mais ça résiste aussi. Si ce n'était que les étudiants, vous voyez ce que je veux dire, je l'ai rencontré 100 fois à l'université, au lycée ou ailleurs, je fais les choses différemment. Mes étudiants en parlent à leurs petits copains et les copains des autres classes demandent à leur enseignant d'en faire autant. Et aussitôt, la réaction est hostile parce qu'il faudrait qu'ils changent de méthode, qu'ils changent de vision. Et c'est cela avec quoi on doit vivre. Et l'Association des professeurs de langue vivante, c'est ce avec quoi elle vit tous les jours, puisqu'elle met ensemble des professeurs de langue vivante. Mais il n'y a pas que les langues vivantes. Les mathématiques, l'enseignement des mathématiques en France est archaïque. L'enseignement de la physique est archaïque. Ça devient intéressant quand on passe dans le technologique où on a de la mathématique appliquée et de la physique appliquée. Parce qu'alors là, ils sont dans de la véritable chose. Ils peuvent le toucher, ils mettent les doigts dedans. C'est de la mécanique, c'est du cambouis. Mais la mathématique générale, ouais, ça passe au-dessus des têtes de la plupart des étudiants. Et je ne veux pas être méchant, mais ma collègue du collège d'Olliergues, quand j'y étais, qui était certifiée de mathématiques et qui avait enseigné la mathématique toute sa vie, était très fière de dire qu'elle travaillait à la fin de sa carrière avec les mêmes cours, les mêmes préparations qu'au début de sa carrière. Et les parents le savaient, si bien que les parents donnaient aux enfants les résultats, les corrections des exercices que la professeure donnait à leurs enfants, parce qu'ils avaient fait les mêmes 20 ans plus tôt. Vous voyez, ce que j'appelle... Là, on a un vrai problème.
On a un vrai problème.
Oui, on a un vrai problème, mais en fait, il n'y a pas de solution pour ce problème-là, des méthodes. Parce que, d'une part, le corps enseignant est fatigué. Ça fait 30 ans que... Moi, j'étais prof d'anglais de base pendant 20 ans, avant d'aller à la fac. Il y a il y a eu des réformes tous les deux ans, quasiment, il y a une réforme. Les gens sont fatigués. Et après chaque réforme, on est de plus en plus désespérés. Hein. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un vient avec une nouvelle réforme, les gens vont dire, mais de quoi tu te mêles, toi ? Ça fait déjà, on a déjà tout essayé. Et donc, moi, là, j'ai pas cette notion, j'ai pas la notion que les profs font mal leur boulot. Je pense qu'il faut les aider dans le boulot qu'ils font, mais il ne faut pas leur imposer des nouvelles méthodes. Et je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Elias Canetti, qui s'appelle en allemand « Fackelimor », le flambeau dans l'oreille, ou la langue sauvée, non ? Bref, il raconte comment sa mère lui a appris l'allemand. Alors, Elias Canetti, il faut rappeler que c'était un écrivain d'origine roumaine, donc bulgare, qui parlait le roumain, le russe, etc., un tas de langues. Dans sa famille, son père et sa mère parlaient en allemand, c'était la langue des parents, qui était la langue secrète. Il a appris ensuite, il a vécu en Angleterre, puis en France, comme gamin, parlait français, etc. Et puis sa mère est allée s'installer en Suisse. Et là, elle lui a appris l'allemand. Alors, je ne vous le dis pas comment elle lui a appris l'allemand, mais c'est une méthode, si vous l'appliquez en classe, ben vous auriez les parents sur le dos, quoi. Donc, je dirais la conclusion qu'apprendre une langue, ce n'est pas tellement dépendant des méthodes. C'est dépendant de la volonté de ceux qui veulent apprendre et de ceux qui veulent l'enseigner. Si on l'enseigne avec générosité et compétence, quelle que soit la méthode, on va s'en sortir. Si, de l'autre côté, il faut bien sûr que les enfants soient prêts à apprendre. Or, il y a des attitudes, mettons, sociales vis-à-vis des langues, qui décourage l'apprentissage. On en a vu une ce matin avec, je ne sais plus si elle est là encore, Émilie. Non, cet après-midi, Émilie avec le... Elle est là ? Oui. Le problème de l'Angleterre, c'est, il n'est pas pédagogique. Hein. Il n'est pas pédagogique, il est l'attitude des Anglais, et donc qui réverbère sur les jeunes, l'attitude de la population vis-à-vis des langues. Hein. Et on peut donner le même genre d'explication en français, pourquoi juste l'anglais ? Enfin bon, j'ai pas le temps de le faire maintenant, mais il y a une attitude de la population vis-à-vis des langues. Inversement, si en Afrique le français se développe, c'est parce que la population considère que le français est une chance pour leurs enfants. Ils voient pas un avenir, ils voient pas d'avenir pour leurs enfants sans le français.
Mais au même moment, ils sont pas prêts à abandonner leur langue. C'est intéressant justement en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont une perception valorisante du français ou de l'anglais, des langues européennes. Mais ils ne sont pas prêts à abandonner les langues africaines. C'est-à-dire que les parents tiennent donc à une cohabitation des langues, langues européennes, langues africaines. Voilà. Oui, et même à l'école.
Alors,
beaucoup abandonnent leur langue.
Beaucoup d'Africains maintenant qui. Beaucoup d'Africains, non, c'est les langues
africaines. Oui, les Africains vivant. D'abord, dans les grandes villes ou en Europe, peut-être. Mais quand nous parlons de ces Africains, ils représentent une minorité en réalité. La majorité, c'est dans la profondeur de l'Afrique.
L'attitude est une chose. L'instrumentation, c'est autre. L'instrumentation pédagogique, c'est autre chose. Hein, bon, donc, les phénomènes peuvent tout à fait se contredire. On peut tout à fait souhaiter la pérennité d'une langue. Et si les moyens... pédagogiques, didactiques sont pas là, le résultat sera malheureusement négatif. Hein. L'attente ne sera pas récompensée. En tout état de cause, quelle que soit l'attitude fondamentale de l'enseignant ou pas, le problème de l'éducation, c'est aussi un problème démographique. Hein. Et donc, c'est un phénomène qui s'inscrit dans la durée. Alors, par exemple, déjà pour décréter, pour élaborer un nouveau projet pédagogique. Prenons les concepts de l'éducation plurilingue. Ils font leur apparition dans les textes officiels français, là, depuis deux ans. Hein. Donc ça veut dire qu'il a fallu quasiment, enfin, plus de 15 ans, pour arriver à le mettre dans les textes. Bon, après, pour que ça puisse se traduire dans la classe, il faut quand même qu'il y ait toute une génération d'enseignants qui soit formée et toute une génération d'enseignants, enfin, en activité, qui passe par la formation continue. Mais la formation continue, chacun sait qu'elle n'est pas tellement développée. Donc il faut, rien que, même s'il y a une bonne adhésion des enseignants actuels ou futurs, il y a un effort absolument considérable et une manière continue dans le temps pour arriver au résultat. Sinon, voilà, nous, on peut parler, mais dans la réalité, il ne se passe rien. Voilà, oui, là, il faut effectivement qu'on aille manger. On peut continuer.
Ce sera la fin. Vous voulez intervenir, monsieur ? Une dernière intervention.
Je veux juste dire que j'aimerais quand même que ce débat ne se recentre pas sur les politiques françaises, parce que il est vrai que ce que vous avez dit, je ne connais pas aussi bien le contexte français, mais quand même des contextes beaucoup très différents. Par exemple, ce qui se passe en Espagne, ce qui se passe en Italie avec tous les projets de CLIL qui se font avec le français et l'anglais ou d'autres langues. Puis si on part en Afrique, alors là, c'est un autre monde. Je veux quand même vous dire qu'il y a une langue importante en Afrique qui est le portugais. Et tout ce qui se fait avec le portugais et les langues africaines, et surtout, pour ne pas perdre les langues africaines au point de vue pédagogique dans les écoles, donc avec les langues bantou en Angola, et même c'est des choses très importantes. Et l'Europe, et en particulier la France, n'est pas du tout consciente de ce besoin. Et je peux vous dire qu'en tant que projet européen, ça vaut ce que ça vaut, mais la France n'est jamais présente, ou très rarement présente, ou alors quand elle est présente, je suis désolé de vous le dire, je suis une formation francophone, j'ai été reconnu par la France, avec, c'est un pays qui m'est très cher, une culture qui m'est très chère, mais avec une position très franco-française, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, alors qu'il y a l'ouverture au pluri, au multi, n'est pas tout à fait le meilleur exemple pour les universitaires français dans les projets européens. Et je peux vous dire qu'on a des cas très compliqués à gérer lorsque des universitaires français, en particulier ceux que je connais le mieux, enfin dans les projets européens, ils disent soit c'est notre méthodologie, soit on ne l'accepte pas. Donc il faut quand même tenir compte que malheureusement, l'exemple d'université française, je parle d'université, je ne connais pas aussi bien les écoles, et les universitaires français ne sont pas tout à fait soutenants et ne soutiennent pas tout à fait ce qu'on appelle le plurilinguisme. Je suis désolé de le dire, mais il faut quand même le retenir.
Je pense que là, on va pas faire le procès de la France, mais je partage vraiment votre point de vue, parce que quand nous prenons le contexte africain, même l'enseignement du français en Afrique, quelquefois, on a l'impression que la France interpelle le ministre de l'Éducation pour dire que cette façon d'enseigner la langue française ne répond pas aux normes françaises. Et donc, c'est comme si on devrait s'aligner derrière la politique linguistique franco-française. Et c'est assez compliqué. Quand les enseignants disent « Dans ma classe, j'explique les choses aux élèves, ils ne comprennent pas », je suis obligé de passer par leur langue, mais clandestinement. Parce que sinon, l'administration va sévir. Vous voyez, c'est une situation assez complexe.
Mais en fait, quand même, le fait que les politiques éducatives s'inscrivent dans le temps long, ça, c'est pas une spécificité française. Je pense que c'est le cas de tout le monde.
Voilà. Ce que je veux dire, en France, lorsqu'on fait une réforme, il y en a un quelque part qui va faire une réforme, on voit ça tout le temps, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne marchera pas. Il y en a un qui, il y a une groupe là, de on ne sait pas trop qui, au ministère, copain avec telle ou telle famille de didacticiens qui a le vent en poupe juste à ce moment-là, et ils vont concocter une réforme, et après, comme on est très caporaliste en France, eh bien, ça va descendre du haut jusqu'en bas, et puis une fois que ça arrive en bas, on s'aperçoit que ce n'est pas mieux que ce qu'il y avait avant. Donc c'est pour ça que mon argument c'était qu'il faut laisser les gens faire comme ils veulent, en leur faire confiance, les aider s'ils ont besoin. Pour la formation continue, tu le disais, qui a été coulée depuis les années 80, elle a été coulée, la formation continue en France. Enfin bon, mais on ne va pas continuer, comme tu as raison Manuel, mais il y a un aspect effectivement comme ça qui est caporaliste, je dirais,
très
du système
bien.
Français,
je...
du haut en bas.
Je et vous remercie. L'étranger. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais clôturer en disant que justement, nous avons pris un engagement, des collègues et moi notamment, nous avons un vaste projet d'ouverture d'un, d'une université francophone d'Afrique, c'est-à-dire qui va s'écarter un peu de tous les liens français pour enseigner la réalité francophone d'un point de vue africain. Bon, on pourrait en reparler. Bonne soirée.